Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. L'économie, la pandémie, l'environnement figurent parmi les grands thèmes de cette campagne électorale. Qu'en est-il de la francophonie? On en discute avec ma collègue Marie-Soleil Desautels. Quelles sont les attentes du gouvernement des territoires du Nord-Ouest quant au prochain gouvernement fédéral? J'en ai discuté avec la première ministre Caroline Cochrane. La saga se poursuit. Le gouvernement des TNO a trouvé un local pour accueillir les personnes sans-abri durant la période hivernale à Yellowknife, mais des résidents du voisinage s'y opposent. J'en ai discuté avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green. Et finalement, mon collègue Thomas Chabot nous parle des derniers développements entourant la future Université polytechnique des territoires du Nord-Ouest. On le sait, l'économie, la pandémie, les soins de santé et l'environnement figurent parmi les enjeux prioritaires des élections fédérales de 2021. La francophonie est également importante pour plusieurs électeurs. C'est ce que plaide la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Marie-Soleil Desautels, vous avez discuté avec la présidente de la Fédération de certaines initiatives qui ont été mises de l'avant pour que les francophones hors Québec ne soient pas oubliés.
Oui, par exemple, la Fédération des communautés francophones et acadiennes a mis sur pied fin août un site web intitulé monvotefrancophone.ca pour informer des plus importants enjeux et aussi pour inviter le public à contacter facilement leurs candidats via des formulaires. L'organisme qui se dit non partisan a aussi regroupé sur ce site web la voix d'organisations francophones sur des enjeux touchant les aînés, la culture, les écoles, les femmes, la jeunesse et les parents, la petite enfance. Cela dit, compte tenu de la courte durée des élections, la Fédération a décidé de retenir deux priorités, soit la modernisation de la loi sur les langues officielles et un plan de relance pour la francophonie. Elle a analysé les engagements des partis en fonction de ces priorités-là et publié deux tableaux comparatifs de leurs résultats sur son site Web. Lors d'une entrevue téléphonique, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liane Roy, a expliqué vouloir donner le maximum d'informations aux francophones pour qu'ils puissent voir quel parti répond le mieux à leurs aspirations. Par exemple, sur leur site Web, on peut voir que tous les partis se sont engagés à moderniser la loi sur les langues officielles, mais que seulement le Parti libéral et le Parti conservateur se sont engagés à déposer un projet de loi dans les 100 premiers jours de leur mandat. On peut y lire que seuls les conservateurs et les néo-démocrates ont prévu inclure dans la loi sur les langues officielles une obligation de consultation effective ou robuste des communautés, mais que les libéraux, quant à eux, s'engagent à une loi sur les langues officielles modernisées qui va protéger les institutions clés des communautés. Les tableaux comparatifs des campagnes électorales que fournit la Fédération des communautés francophones acadiennes sont quand même très sommaires. Par exemple, pour le financement des établissements d'enseignement postsecondaire dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, on voit que tous les partis, sauf le NPD, ont pris des engagements dans leur plateforme électorale. Cela dit, les promesses diffèrent. Par exemple, les libéraux promettent de le faire passer à 80 millions de dollars par année et ce, de façon permanente, tandis que les conservateurs, eux, s'engagent à créer une nouvelle enveloppe budgétaire de 30 millions de dollars par année, sans qu'on sache de combien d'années il s'agisse, tandis que le Parti vert du Canada promet d'assurer un financement permanent et stable sans avancer de chiffres.
Et Marie-Soleil, évidemment, on est encore en campagne électorale. Tout ça, ça demeure des promesses.
Et oui, les partis disent plein de choses pour se faire réélire et on le sait, ça ne veut pas toujours dire que ça se réalise une fois qu'ils sont élus. D'ailleurs, il n'y a aucun parti qui a pris des engagements pour d'autres causes qui sont importantes pour la Fédération des communautés francophones et acadiennes et ses membres, comme la question des clauses linguistiques dans les transferts aux provinces et aux territoires, la création de places en garderie en français ou des solutions à la pénurie de main-d'œuvre francophone, ce qui est bien dommage aux yeux de la Fédération.
Mm-hmm. Et Marie-Soleil, au moins, là, si on se fie aux sondages et aux promesses, le nouveau projet de loi pour moderniser la loi sur les langues officielles sera déposé au début de 2022, soit par les libéraux, soit par les conservateurs. La Fédération des communautés francophones et acadiennes a également organisé des tables rondes pour les candidats.
Oui, la Fédération des communautés francophones et acadiennes a organisé une quinzaine de tables rondes dans 5 régions du Canada pour s'assurer que les candidats connaissent des enjeux des communautés francophones en situation minoritaire. Les candidats libéraux, conservateurs et néo-démocrates, je viens de l'Ouest, du Nord, de l'Atlantique, de l'Ontario ainsi que du Québec ont été invités à participer à des tables rondes séparées avec des représentants régionaux de la francophonie, membres de la Fédération. C'est la première fois que la Fédération organise autant de tables rondes qui permettent des discussions plus approfondies, a affirmé sa présidente Liane Roy lors d'un entretien. Elle a expliqué qu'il voulait s'assurer que les candidats sachent qu'il existe des communautés francophones hors Québec et qu'ils prennent conscience de leurs divers défis.
Et Marie-Soleil, est-ce que les candidats des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont pu participer à ces tables rondes?
Les candidats conservateurs et ceux du Nunavut n'ont pas répondu à l'appel de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, ou alors ils n'étaient pas disponibles. Ainsi, 2 tables rondes seulement ont été organisées dans la région du Nord, l'une avec les candidats libéraux du territoire du Nord-Ouest et du Yukon, l'autre avec les candidats néo-démocrates. Ils ont pu rencontrer des représentants de la Fédération franco-ténoise et de l'Association franco-yukonienne. La directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Linda Busset, a estimé que ça n'a pas été un gros succès pour recruter les candidats du Nord, mm-hmm. et elle ne s'est pas étonnée de l'absence de la candidate parachutée du Parti conservateur.
Oui, évidemment.
Et si Mme Busset a dit avoir beaucoup travaillé avec Michael McLeod dans le passé, qui est député libéral pour les territoires depuis 2015 et ce qui se présente à nouveau, elle affirme avoir initié le candidat néo-démocrate Kelvin Cotulia aux enjeux qui préoccupent sa fédération, dont les besoins en petite enfance ou encore le centre communautaire, et que celui-ci démontrait un grand intérêt à en apprendre davantage.
Eh bien, les candidats à travers le pays représentent toute la population d'une région. C'est en effet important qu'ils soient conscients des réalités de chacune des communautés qui les composent. Marie-Soleil Desautels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Par définition, le gouvernement de consensus des territoires du Nord-Ouest n'appuie aucun parti politique. Qu'importe qui investira le Parlement, ce parti fera face aux exigences du gouvernement territorial qui a le devoir de s'assurer qu'Ottawa réponde aux besoins uniques, voire urgents, des collectivités du Nord. Se gardant de toute partisanerie, la première ministre Caroline Cochrane ne compte pas faire de concessions avec le prochain gouvernement canadien quant au plan d'avenir des territoires du Nord-Ouest.
The responsibility for the NWT to within a consensus government, which is one of the benefits.
En tant que gouvernement de consensus, indique la première ministre, nous devons travailler en collaboration avec tous les partis. C'est un système qui facilite les choses en quelque sorte, puisque nous ne sommes contraints d'adopter aucune ligne de parti. Que les conservateurs, les libéraux, le NPD ou les Verts l'emportent, le prochain gouvernement devra faire preuve de flexibilité et adapter ses priorités aux nôtres.
Within their priorities to meet the needs of the NWT.
Et plus précisément, quelles sont les principales demandes du GTNO aux partis fédéraux pour traiter les enjeux sociaux tels que la crise du logement, l'itinérance et les problèmes de santé mentale et de dépendance?
Well, we did write a letter to the each federal party to see how they would invest in the NWT in regards to.
Nous avons écrit à chacun des partis pour leur demander de quelle manière ils comptent investir au territoire du Nord-Ouest en tenant compte de nos résidents, de nos industries, de nos gouvernements autochtones et municipaux et de nos enjeux environnementaux. En ce qui nous concerne au chapitre de la santé et des services sociaux, il importe d'abord de bénéficier de flexibilité en matière de financement et d'entente de fonds.
Because we are different. So they need to be flexible within their policies, their funding arrangements, so it meets our needs.
Chaque circonscription est différente et la nôtre a certainement des besoins qui lui sont propres, ajoute la première ministre. Avant la pandémie, nos écarts en matière d'infrastructures, de logement ou de santé et de services sociaux étaient déjà énormes par rapport aux provinces. La COVID-19 a porté ces enjeux à l'avant-plan. La réconciliation représente à ses yeux un enjeu critique en matière de santé et de services sociaux. Une partie du processus réside dans l'appui à nos luttes aux problèmes de santé mentale et aux dépendances. La moitié de la population des TNO est autochtone et Ottawa doit également reconnaître les gouvernements autochtones à leur juste valeur.
Reconciliation is key, and part of that, in my opinion, is mental health and addiction support.
Et comment ce prochain gouvernement devra-t-il s'assurer du succès des processus de réconciliation et des négociations avec les peuples et gouvernements autochtones? La première ministre croit-elle que tous les partis y seront entièrement dévoués?
I think that any party that doesn't take reconciliation serious is not wise. Mm-hmm. I think that
Je crois qu'un parti qui ne prend pas la réconciliation au sérieux n'est pas intelligent. Tout parti doit prendre au sérieux les revendications territoriales, la Commission Vérité et Réconciliation, les exigences entourant les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées. Tout parti doit travailler avec les peuples et gouvernements autochtones et appuyer les solutions établies par les peuples autochtones. L'économie des TNO était en difficulté avant même la pandémie. Comment le prochain gouvernement fédéral devra-t-il appuyer la croissance économique du territoire?
So they need to look at it and realize the needs, like I had said earlier. They need to be flexible and they need to provide not on a base funding, per capita funding across Canada. They need to do a base plus.
Selon la première ministre Cochrane, Ottawa devra bonifier les fonds offerts par habitant au territoire du Nord-Ouest par rapport aux autres provinces en fonction des besoins uniques des collectivités. Comme le souligne Mme Cochrane, le territoire est très vaste. On y compte 33 collectivités et seulement 45 000 résidents. Elle compare cette situation à un quartier de Toronto qui abriterait cette même population, mais qui n'a évidemment pas besoin de 33 usines de traitement des eaux, ni de 33 écoles ou de 33 centres de santé. Nos coûts sont 33 fois plus élevés que les leurs, indique la première ministre. L'automne est à nos portes. Le vent se refroidit rapidement à Yellowknife. Les mois les plus durs de l'année attendent la population sans-abri de la municipalité. Comme l'an dernier, le centre de jour de Yellowknife devra fonctionner à capacité réduite à cause de la COVID-19. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest espère pouvoir convertir le bâtiment d'Aurora Village, qui se trouve sur la 48e rue, en refuge temporaire afin de pouvoir accueillir les personnes dans le besoin.
There has been a lot of resistance from the neighbors.
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, le confirme. Comme l'an dernier, les résidents et entreprises voisines de l'immeuble convoité par le gouvernement craignent que l'affluence de personnes sans-abri n'apporte des enjeux de sécurité. Certains ont annoncé qu'ils s'opposeraient au projet. Dans une lettre ouverte publiée cette semaine, la ministre implore le voisinage de soutenir ce projet. L'an dernier, le ministère des Affaires communautaires et municipales avait dû déclarer l'état d'urgence à Yellowknife pour forcer la conversion du site choisi en refuge temporaire. Le choix s'est arrêté cette année sur la bâtisse d'Aurora Village en raison de sa proximité avec les refuges de nuit. La taille de ce bâtiment permet d'accueillir jusqu'à 60 personnes en accord avec les restrictions sanitaires. Comme l'explique la ministre Julie Green, le gouvernement entend y mettre des mesures en place pour assurer un bon voisinage.
And there is a formal mechanism that we hope to put in place, which is in place for the shelter on 50th Street, which is a good neighbor agreement. And then
Madame Green souligne qu'une entente officielle de bon voisinage est en place autour du centre de jour permanent de Yellowknife. Des canaux de communication permettent aux résidents des alentours de faire part de leurs préoccupations. Le gouvernement peut ainsi intervenir rapidement s'il y a un problème.
There will be staff from the department who will visit each of the businesses and residents.
Des employés du gouvernement s'affairent à visiter les entreprises et résidents voisins de l'immeuble afin d'entendre leurs préoccupations et d'obtenir leur collaboration. La décision de convertir ainsi un local revient à la municipalité de Yellowknife qui accorde les permis d'exploitation. Or, même si le projet obtient l'aval de la municipalité, il est à noter qu'un seul résident de Yellowknife a le pouvoir de porter ce type de décision en appel et ainsi de repousser de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, la mise sur pied du projet. Une situation qui n'est pas envisageable alors que le gel approche à grands pas. La ministre Green se dit aujourd'hui intéressée à entendre les commentaires des entreprises qui, l'an dernier, ont partagé, malgré elles, le secteur avec les bénéficiaires du centre de jour.
But I think over time, it worked better than they hoped.
Nous sommes intéressés à entendre ces commentaires, indique la ministre. L'entreprise voisine du précédent centre de jour temporaire a indiqué n'avoir eu que peu de problèmes durant la saison hivernale. Je crois qu'avec le temps, indique la ministre, les choses se sont mieux déroulées que ce qu'ils croyaient. Certains incidents se seraient tout de même produits au retour du printemps.
Inviting them to consider that many of the people who live on the street are residential school survivors.
Julie Green implore les résidents et entreprises du secteur qui ont le pouvoir de refuser ce centre de jour temporaire de considérer le fait que plusieurs des personnes sans-abri de Yellowknife sont des survivants des pensionnats autochtones ou portent en eux les conséquences du colonialisme. Le centre de jour et de dégrisement de Yellowknife a dû temporairement fermer ses portes cette semaine. Des employés ont contracté la COVID-19 et sont présentement en convalescence. Le gouvernement des TNO a obtenu l'aval de la municipalité pour ouvrir un premier centre de jour temporaire à l'aréna de Yellowknife. Il s'agit d'une solution provisoire. Au moment où le centre de jour permanent rouvrira ses portes, un autre centre de jour temporaire sera toujours nécessaire pour accueillir les sans-abri durant la période hivernale. Sur les réseaux sociaux, la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a dressé une liste d'organismes qui viennent en aide aux personnes sans-abri ou dans le besoin. Elle invite les résidents à faire des dons ou à offrir leur bénévolat. Alors que ces entreprises s'affairent présentement à pallier le manque généré par la fermeture du centre de jour. On invite les résidents à contacter l'Armée du salut de Yellowknife, l'organisme Home Base Yellowknife, la Yellowknife's Woman Society, la NWT Disability Council ou encore le YMCA des territoires du Nord-Ouest. Le projet de conversion du Collège Aurora en Université Polytechnique est sur la table depuis plusieurs années au territoire du Nord-Ouest. Suite au dépôt du projet de loi 30, là, c'est-à-dire la loi modifiant la loi sur le Collège Aurora, une audience publique a été organisée le 9 septembre par le Comité permanent des affaires sociales. Thomas Chabot s'est penché sur cette séance de ce comité de l'Assemblée législative. Thomas, comment a été reçu ce projet de loi?
Dans son ensemble, la transition du Collège Aurora vers une polytechnique a été bien reçue. Cependant, certains changements proposés ont suscité des réactions, dont l'indépendance de l'université vis-à-vis du ministère de l'Éducation, ainsi que la composition des conseils. Dans le projet de loi actuel, le conseil des gouverneurs du Collège Aurora est composé d'un conseiller du personnel enseignant, d'un du personnel non enseignant et d'un conseiller du personnel étudiant, ainsi que de 8 conseillers recommandés par le conseil. Et c'est parmi ces 8 conseillers-là, 5 doivent être résidents des TNO et 3 d'entre eux doivent être autochtones. Et c'est sur ce point qu'il y a eu des réactions. Selon la conseillère juridique du gouvernement Clichon, Bertha Rabescazo, le GTNO devrait savoir que la représentation est un aspect fondamental de la réconciliation et que le modèle de gouvernance doit tenter de faire partie des TNO et non d'en être qu'une partie. C'est ce qu'avait dit Mme Zo lors du comité. Et ce que le gouvernement Clichon demande, c'est d'avoir un conseil composé de représentants régionaux autochtones. Or, dans le projet de loi actuel, cette représentation n'est pas assurée. Pour Mme Rabescazo, et je cite, prendre l'approche actuelle, c'est de retourner à un gouvernement dont l'état d'esprit est toujours empreint de colonialisme. Le président de la Nation métisse des territoires du Nord-Ouest, Gary Bailey, est du même avis. Il demande au comité permanent de fournir à chaque gouvernement autochtone un siège au conseil. La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, demande quant à elle que les sièges du conseil des gouverneurs ne soient pas réservés uniquement à des résidents vivant actuellement au territoire. Elle a expliqué que c'était dans le but d'être assurée de recevoir autant de bons candidats que possible en reconnaissant que certains résidents ont déménagé en dehors du territoire pour acquérir de l'expérience.
Et Thomas, on a également remis en question l'indépendance du Collège Aurora vis-à-vis du ministère de l'Éducation.
Oui, Mme Alty s'est dit intriguée quant à la décision de sélectionner le président de la Polytechnique à l'intérieur du bassin des employés du service public. La mairie de Yellowknife se questionne aussi sur l'abrogation et le remplacement de l'article 12, la responsabilité de désigner parmi les conseillers un président et un vice-président qui découlait auparavant du conseil des gouverneurs et désormais entre les mains du ministre de l'Éducation. La conclusion de Mme Alty est que, sous sa proposition actuelle, le projet de loi ne va pas assez loin dans l'établissement de l'université en tant qu'institution indépendante.
Et Thomas, dans les changements proposés par le projet de loi, il est également mention de la création d'un conseil des détenteurs du savoir traditionnel. Y a-t-il eu des réactions concernant la composition de ce conseil?
Oui, et c'est l'un des points qui a soulevé le plus de réactions. Selon l'article 21, sous-section 3 du projet de loi, les détenteurs du savoir traditionnel sont désignés par les membres du Conseil des gouverneurs du Collège Aurora. Or, pour le gouvernement Clichon et la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, cette décision ne devrait pas être entre leurs mains, mais entre celles des Premières Nations. La conseillère juridique du gouvernement Clichon a d'ailleurs indiqué que sans changement de direction, elle craignait que le statu quo touchant l'interaction entre le gouvernement Clichon et Ténois ne puisse continuer.
Mais il va très certainement en être question en prochaine session de l'Assemblée législative qui débute à la fin octobre. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Sinon, je vous invite à syntoniser Radio Taïga ce lundi dès 20h30. On vous présente la soirée pan-territoriale des élections fédérales 2021. Une émission présentée en direct et en collaboration avec nos collègues d'ici Grand Nord, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Bref, on couvre pour vous ce qui se passe ce soir-là dans le Grand Nord canadien et on espère évidemment pouvoir vous présenter des premiers résultats. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Média Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.